porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. C'est difficile de savoir qui a raison et qui a tort aujourd'hui dans ce milieu politique déconcertant. Monsieur Raymond Devos en parle mieux que moi.
Pourquoi vous voulez toujours avoir raison? Vous voulez toujours avoir raison, c'est ça? Toujours avoir raison.
C'est difficile de savoir qui a raison ou qui a tort. Moi, longtemps, j'ai donné raison à tout le monde jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, j'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Oh ben parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je donne pas, sans se reconnaître mes torts. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi, hein. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'en général, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort.
Alors, qui a raison? Qui va rebooster l'état financier de la France? La bonne droite, avec si possible l'extrême droite, en défense des gros capitaux et actionnaires, ou les bons et loyaux français, les vaches à lait? Qui a tort? Cette gauche qui se cherche encore, malgré ses efforts, d'entente et qui a trouvé des solutions. Justice fiscale oblige. La raison l'emporte? Le gouvernement va taxer exceptionnellement de 0,3% les 65 000 foyers fiscaux les plus riches. Et pour les grandes entreprises, au profit important. Genre, vous voyez bien, on applique cette fois-ci la justice fiscale. Ah ouais? Mais ça va pas suffire. Il faut trouver 60 milliards d'euros. Alors, ils vont quand même essayer de ponctionner 40 milliards prévus par des réductions de dépenses publiques. Et paf pour le redressement et l'amélioration de nos institutions et de nos services publics. Plus de 20 milliards de hausse d'impôts. Et paf pour nous tous. La Cour des comptes, dont l'ancien président est devenu garde des Sceaux, M. Didier Migaud, sait de quoi il parle, lui. On rappelle qu'il a été aussi président de la Cour des comptes en 2010 à 2020, puis président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Alors, quand il parle d'austérité, il sait de quoi il parle. Quand il parle d'austérité pour redresser la France, on a de quoi s'interroger quand même, et même de s'énerver. Quand il parle de supprimer 100 000 emplois publics, ou dans l'éducation nationale, monsieur, ou dans l'hôpital public, la police, la justice, les collectivités locales? Ouh! Ouh! Bon, je suis toute seule, là. Bon.
Mais je ne rappellerai qu'une chose. Dans le cadre de mes imitations célèbres, je ne dirai qu'une chose. C'est ce qu'avait dit le général de Gaulle. Les Français sont des veaux.
Ah, bon.
Donc on peut tout leur imposer, comme
bon,
le veau sous la mer.
Il est traité de vache à lait plus haut. Bon.
Ben, c'est pour ça que je faisais référence à cela.
Mais rassurons-nous, Poupa, rassurons-nous, nos hommes politiques sont des hommes responsables. Ainsi, pour l'Élysée, pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de hausse de budget. Car quand même, les filous, ils pensaient bien se faire une petite rallonge. La raison l'emporte, ouf, même quand ils ont eu tort. On ne peut plus compter sur eux. Et ils n'ont pas su nous protéger de ce déficit. Ils n'ont pas su, tout simplement, compter. Maintenant, on voudrait nous faire croire que la France est le pays le plus généreux et qu'il y a eu de grandes largesses, encore et toujours un petit peu à cause du Covid. Le Premier ministre, Michel Barnier, a présenté jeudi dernier son fameux projet de loi des finances pour 2025 devant le Conseil des ministres. Reprenons un peu l'ordre des choses. Ce budget est encore examiné par l'Assemblée nationale. Défiance sur les raisons du déficit. Mésentente et règlement de compte, sans majorité, cela n'arrange rien. Bon, ça s'annonce mal. On l'a bien compris. Il faut quand même admettre que ce déficit public dépasse les 6,1% du PIB. Reste une énorme dette pour la France qui n'a pas respecté les règles du pacte de stabilité et de croissance européen. Alors, c'est quoi le pacte de stabilité et de croissance? Eh bien, depuis 1997, ce pacte est un outil de discipline budgétaire des États membres de la zone euro.
Les fameux 3%.
Voilà. Car, figurez-vous, et je pense que vous n'allez pas être étonné de ça, tous les pays de l'Europe sont endettés. Tous, pas un ne fait exception. Alors ceci...
Je peux donner une information.
Oui, oui.
Vous pourrez vérifier si vous ne me croyez pas, mais le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis.
Ah bah tiens, bah finalement c'est pour ça qu'ils roulent bien eux.
Voilà.
Avec
comme quoi
des
la
autres,
dette,
ou avec,
la dette avec laquelle on serine tout le temps en disant que c'est un drame et tout. Non. La dette peut, quand elle est bien employée, peut relancer une économie, peut-être au détriment des plus pauvres, mais ça changera pas.
Bon, en tous les cas, rassurons-nous, tous les pays européens sont bel et bien endettés. Alors, ce pacte doit engager à maintenir le déficit en dessous de 3%, comme tu disais, du produit intérieur brut. Et leur dette publique doit être inférieure ou égale à 60% du produit intérieur brut. Il a donc, ce pacte, été suspendu en 2020. À cause de quoi? À cause du Covid. Et il est remis, bien sûr, à l'ordre du jour. Aïe, 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 ça va faire mal. Alors il va falloir la justifier, cette grosse dette quand même. Ce grand trou budgétaire. Sûr, on est dans la galère, les amis. Et c'est qui? Qui est-ce qui a mal compté? Et à qui on doit demander des comptes? À nos politiques, à notre gouvernement. Qui a mis des zéros devant les dépenses publiques ou devant des factures? C'est bien le gouvernement. Une fois le projet de loi de finances entre les mains du Parlement, donc je continue la suite de ce projet de loi de finances, les députés et les sénateurs vont l'examiner, en débattre et normalement le voter. Sauf que il peut y avoir plusieurs questions encore et plusieurs problèmes. Bon, bien sûr, le désaccord entre les deux chambres. Est-ce que l'Assemblée nationale va avoir le dernier mot cette fois-ci? Ou alors, est-ce qu'on va encore faire appel à un 49-3?
Ah, le retour.
Le retour.
Le 49-3 revient et il n'est pas content.
Et non. Et qui va déposer une motion de censure? La loi organique relative aux lois de finances autorise le gouvernement à le mettre en œuvre par voie d'ordonnance aussi. Et, comme tu le dis, Poupa, c'est reparti. Dommage. Vous savez pourquoi c'est dommage? Eh bien, pour le troisième plan national, troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Eh oui, on revient dessus. Alors, si vous entendez parler du PNACC-3, c'est ce fameux troisième plan national d'adaptation au changement climatique, avec le dispositif de leasing social.
Ah, le fameux leasing social pour afin de se procurer une voiture électrique.
Électrique.
Pour pas cher.
Et qui devait être lancé, là, je crois, dans le mois
d'octobre. Mais qui a été lancé, mais qui a eu tellement de succès qu'en fait, ça s'est arrêté. Parce que l'enveloppe attribuée a été atteinte en, je veux pas dire de bêtises, mais je crois en 3 mois. Donc, il n'y a plus d'argent. Donc, il n'y a plus de leasing.
Et puis, le budget n'était pas réalloué ou reconsidéré. C'est ce qu'a annoncé donc vendredi dernier la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui suit son prédécesseur, Christophe Béchu. On s'en souvient encore. Projet attendu par le Haut Conseil pour le Climat, le HCC. organisme indépendant, chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France pour respecter quoi ? L'accord de Paris. Pour atteindre quoi ? La neutralité carbone en 2050.
Voilà. Alors, c'est bien de parler de ça, mais une chose qui nous touche, enfin qui me touche, surtout à moi, beaucoup plus près, puisque une des économies que veut réaliser le gouvernement, c'est réduire de 35 millions la subvention donnée aux radios associatives. Voilà, ce qui condamnerait à mort, on estime à peu près 50 à 60% des radios associatives en France.
Eh oui, on prend un peu partout là où on peut.
Alors il faut espérer que notre diversité, puisqu'on a une réelle diversité, toutes les étiquettes politiques sont représentées dans les radios associatives, nous permettra d'avoir l'oreille du pouvoir pour ne pas être passé à la moulinette des réductions budgétaires.
Bon courage. En tous les cas, le Haut Conseil pour le climat, ce fameux HCC, ça a été mis en place en 2018 par Macron lui-même. Vous voulez plus d'explications sur cette institution privée ? Bien sûr, d'utilité publique ? Bien sûr. Vous pouvez consulter le site. Là, vous allez apprendre plein de choses. Il est super intéressant. Donc, www.hautconseilclimat.fr. Nous ne sommes jamais assez informés, chers citoyens, chères citoyennes. Alors soyons curieux et allons voir tous ces sites que je nomme lors de mes chroniques. Allez, on fait une petite pause musicale avec un super Didier. Non, Didier Super, excusez-moi, avec le titre Rebellion. Allez, on garde le sourire. Smile, smile.
Oh, c'est quoi cette histoire? Tu te sens pas femme? En tout cas, pas complètement. Tu te sens pas non plus un homme, sauf des fois, mais... Alors j'ai écrit cette chanson pour mettre à genoux tous les gouvernements du monde, parce qu'il est temps que tout le monde se rebelle, qu'on éclate ce système contre ce monde de pognon. Faut faire la révolution, allez on se rebelle, on éclate ce système. Y'a pas le choix, y'a que comme ça qu'on retrouvera notre pouvoir d'achat. Allez on se rebelle, on éclate ce système. Vous voulez plus de justice, bah faites comme moi, votez socialiste. La machine ne doit pas dominer l'homme. Il faut boycotter Amazon. Bon, quand y a des trucs vraiment pas chers, on peut discuter. Boycotter, d'accord, mais toujours de façon raisonnée. Faut qu'on arrête de porter des vêtements fabriqués par des esclaves de 5 ans. À partir de maintenant, moi je prends juste une minute pour m'assurer que ce que je porte c'est fait par des esclaves adultes. Allez, on se rebelle, on éclate le système. Pour sauver la planète, on doit s'acheter des voitures électriques. Allez, on se rebelle, moi les écolos je les soutiens. Quand je vais au McDo, je demande des trucs végétariens. Il faut faire barrage à la haine. Ça manque franchement d'amour dans ce pays. Et bah moi je dis les fachos, une balle dans leur tête. Et on bute aussi leurs gosses pour être sûr qu'ils ont bien compris. Que chacun ferme les yeux et réfléchisse un instant à tout ce qu'on peut faire chaque jour pour niquer les puissants. Par exemple moi, je promets solennellement qu'à partir de maintenant, je partage uniquement des posts anticapitalistes sur Facebook. Allez, on se rebelle, on se rebelle. Terroriste, terroriste, terrorisme, terrorisme, terrorisme. Allahu Akbar.
Ah oui, il a la pêche, hein, ce Didier Super. Bon, une question. Qu'est-ce qui serait le mieux ? Réduire le budget du fonds vert ou encore l'aide à l'achat de véhicules électriques ? Ou supprimer 4000 postes d'enseignants, réduire l'ambition sur le logement social, la rénovation. Bon, qu'est-ce qui serait mieux ? Tout cela me semble être du non-sens, voire un contresens, à la fois écologique, social et économique.
C'est pas étonnant, parce que tu as dit que c'est le fond vert. Or, au cinéma, le fond vert, c'est comme ça qu'on réalise les trucages. On tourne une scène sur un fond vert. et on peut le coller sur n'importe quel décor ensuite. Voilà, donc c'est de l'illusion.
De l'illusion, et j'ai planté le décor.
Voilà, bah, sans le vouloir, en parlant de fond vert, tu as bien mis le doigt sur l'illusion du système.
Où pourraient être les nouvelles recettes ? Dans le retour de l'ISF ? L'augmentation de la taxe sur les super-profits ? Des milliards d'euros qui seraient vite mobilisables pour éviter de continuer la casse de nos services publics, nos biens communs. Il y a des trous dans la raquette, voire même trop de plans d'aide qui n'aident pas du tout d'abord les plus mal lotis. Des projets coûteux, néfastes à l'environnement, et on recourt à des crédits d'impôt mal placés que certains déjà très riches pourraient aussi bénéficier. J'ai suivi un article la semaine dernière des propositions pour améliorer, figurez-vous, l'état des finances publiques dans le journal Reporter. Il propose une première piste. Abandonner la réalisation de grands projets coûteux, voire inutiles, pour certains. Et vous voyez bien que la société civile peut se mêler des comptes de l'État. Alors voilà, je voulais vous en parler. Feriez-vous, ferions-nous mieux que nos politiques, qui nous laissent aujourd'hui avec ce grand déficit en France? Ces projets dont je vais vous parler et dont parle Reporter doivent nous interroger. Je commence par l'un, donc là ils en posent cinq, hein, mais il y en a plein d'autres. Mais vous pouvez aller voir aussi, aller lire les articles de Reporter sur le site. Hein. Donc je vais commencer par le nucléaire, avec la construction donc prévue de 6 réacteurs de nouvelle génération, EPR2, d'abord estimé à 51,7 milliards, puis 67,4 milliards d'euros. Une troisième évaluation est en cours et sera supérieure à ces deux premières. Moi, j'arrive même pas à voir les chiffres, hein, mais bon. Donc ça, d'ici la fin de l'année, au fait. Hein. Donc, vous voyez, avec le grand déficit que nous avons, ce que ça peut donner. Vous avez aussi comme un autre projet apparemment qui se voudrait écologique et qui n'y est pas, le train grande vitesse Lyon-Turin. Alors là, c'est du 10 milliards, un projet pharaonique. Et les vieux de 30 ans, un petit peu comme la 69, hein, une ligne longue de 270 km, avec un double tunnel de 57 km, qui doit traverser quoi ? Bien sûr, les Alpes, entre Saint-Jean-de-Maurienne, oh la belle Savoie, et Suse, oh la belle Italie, qui devrait voir le jour avant 2033, selon TELT. Alors TELT, c'est l'association Le Maître d'Ouvrage, et qui n'est pas tout seul à faire ça. Hein. Je crois qu'il y a le réseau SNCF, il y a... Bon.
Non, c'est-à-dire TELT regroupe tous les...
Tous les financeurs.
Tous les sociétés impliquées dans la chose.
Voilà. Si l'objectif affiché, bien sûr, de ce projet est de reporter le fret des camions vers le rail, eh ben le projet, malgré tout, est très loin d'être écolo. Et pour 270 km, eh ben faudrait se poser les bonnes questions. Vous en avez un troisième qui est pas mal non plus, c'est le canal Seine-Nord-Europe. Alors là, c'est à peu près 2 milliards d'euros, pour une longueur de ce canal de 107 km, avec une largeur de 54 mètres, donc ça s'appellerait le canal Seine-Nord-Europe, qui traverserait la région Hauts-de-France entre Compiègne, dans l'Oise, et le nord de Cambrai, dans le nord. Alors, vous voyez, ça nous rappelle un peu les travaux du canal de notre cher...
Pierre-Paul Riquet.
Merci, voilà. Pierre-Paul Riquet. Sauf
à
que
la
là,
houpe, bien
hein,
sûr.
Voilà. Donc là, c'était pas les mêmes enjeux. Pour rendre possible, en tous les cas, là, la navigation des péniches à grand gabarit, selon ses défenseurs. Il facilitera le transport de marchandises entre les pays du Benelux et la région parisienne pour décharger l'autoroute A1 de tous ces gros poids lourds qui nous viennent d'Anvers, de tous ces produits chinois qui arrivent par tous ces grands ports du Schnorr. Voilà, donc c'est un projet qui est présenté comme écologique. On peut se reposer la question du greenwashing. les constructions des méga-bassines est le troisième sujet que je voulais aborder, puisqu'il y en a à peu près cinq, mais il y en a plein d'autres, hein. Et là, figurez-vous, ces méga-bassines, c'est quand même 70% du coût de construction d'une méga-bassine est financé par l'argent public. 50% via les agences de l'eau et 20% par divers fonds d'État. Et ce serait 840 millions d'euros d'argent public qui pourraient être injectés dans ces programmes de méga-bassines, eau technique, écocide. Ces immenses bassins artificiels, remplis par des pompages dans les nappes phréatiques directement, ou les rivières, sont un non-sens écologique. Juste pour permettre à une poignée d'agriculteurs qui pourraient irriguer leur monoculture destinée à l'exportation. Moi, je me dis que ça mérite un référendum. Alors, le dernier, parce que je ne vais pas tous les énumérer, ce sont les cinq premiers qui sont mis en avant dans le journal Reporter, et que je félicite pour tout leur travail, parce que moi, je vous ai un petit peu synthétisé tout ça, mais vous avez beaucoup d'explications sur certains projets. Le cinquième, donc, c'est l'officialisation de l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver. Allez, ceux de 2030, hein, attention, dans les Alpes françaises. Le Comité international olympique, le CIO, a attribué fin juillet les JO aux Alpes françaises. Alors, les coûts d'organisation sont à peu près de 2 milliards. Avec des infrastructures à revoir, 1 milliard. Le budget global des JO d'hiver 2030 devrait atteindre au moins les 3 milliards d'euros selon les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce bien raisonnable, après les magnifiques et tout aussi pharaoniques JO de cet été? Nos politiques ont là de lourdes responsabilités. Faire vivre le pays, le rendre attirant, faire des choses incroyables.
Alors, j'ai pas écouté tout ce que tu as dit, mais oui, je voulais préciser sur les Jeux Olympiques d'hiver. Il faut savoir que l'État s'est déjà engagé à couvrir 520 millions d'euros.
Bon, c'est pour pas qu'il le dit, hein. Ah,
ben, c'est pas déjà moi, engagé. C'est, puisque pour pouvoir attribuer les JO à la France, il fallait que l'État se porte caution. Et l'État s'est engagé pour 520 millions d'euros.
Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'image de la France ? La 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 la.
Alors que dans quelques années, il n'y aura plus de stations de ski en France, puisqu'il n'y aura plus de neige.
Et voilà, donc voyez ce bien commun qu'est l'eau, hein. Bon, nos politiques, donc, comme je le disais, ont là de lourdes responsabilités. Et qu'en est-il des citoyens ? N'avons-nous pas notre mot à dire dans tout ça ? Ces projets qui entraînent des régions, des communes, la physionomie de paysages, la ponction de l'eau, comme je le disais, un bien commun qu'il faut préserver. Tout cela, chers citoyens, chères citoyennes, tout cela nous concerne. Nous devons participer aux choix qui sont faits et qui transforment nos paysages, notre vie, notre démocratie. Car la démocratie, elle repose sur un dialogue ouvert, sur la confrontation, en encourageant la participation des habitants, des habitantes dans les débats constructifs et puis informés. On favoriserait alors la culture politique ou la diversité des opinions. Ça valoriserait les meilleurs choix qui soient pour notre pays. Ces perspectives prises en compte permettraient d'enrichir de façon significative la qualité des décisions. Nombre de citoyennes et de citoyens comme vous et moi sont déjà engagés sur le terrain et on ne peut que les féliciter et les suivre. Encore plus ceux qui sont sur les lieux de lutte et à qui on envoie les CRS, les coups de poing, voilà, les LGBT. Alors qu'ils défendent quoi ? Nos biens communs ? nos terres agricoles, soi-disant notre souveraineté alimentaire. Leur combat joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la démocratie, car il renforce la participation citoyenne. Cela en rétablissant la confiance entre les citoyennes et les citoyens et leurs institutions municipales, nationales, régionales, en nous donnant du pouvoir à nous, les citoyens, à nous les habitants, à nous les résidents, comme vous voulez. En prenant part activement aux décisions qui affectent notre vie quotidienne, nous avons notre place là, au centre des débats. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, je vous promets d'aborder la place du citoyen, la responsabilité que nous avons et nos moyens d'agir en s'impliquant, en proposant la mise en forme, la mise en place d'assemblées citoyennes dans les régions, dans les communes, dans les communautés d'agglos. Voilà. Et ce n'est pas une utopie, parce que ça existe déjà. Et ça, je reprendrai le temps d'en parler et peut-être de faire appel à vous pour venir me rejoindre pour une assemblée citoyenne sur notre secteur de Moissac. Voilà. Eh bien, je vous laisse là et avant de... je vais vous dire à la semaine prochaine. Je voulais rappeler que c'est Octobre Rose. Et à vous, mesdames, à vos mammographies. C'est pas bien agréable, mais ça vaut le coup. Nous avons choisi une autre chanson de Super Didier. Non, Didier Super. À chaque fois, j'ai envie de dire Super Didier. Parce que je le découvre en même temps. Et franchement, moi, je sais pas trop s'il est un petit peu foufou. Très original, un peu chansonnier, parolier, voilà. Mais en fait, il a une super chanson. Je n'ai pas inscrit le titre, Poupa.
C'est Choisis ton sexe.
Ah, Choisis ton sexe. Bon, en tous les cas, vous, mesdames, n'oubliez pas la mammographie. À la semaine prochaine.
Oh, c'est quoi cette histoire? Tu te sens pas femme? En tout cas, pas complètement. Tu te sens pas non plus un homme. Sauf des fois, mais pas tout le temps. Je peux plus dire elle, je peux plus dire il. Je dois dire yel, ok, je veux bien. Mais si je dis yel est chiante ce matin, j'ai l'impression que ça change rien. Hey, solo! Ouais, il est un petit peu en retard là, le solo, hein. Tu te sens pas femme, tu te sens pas homme. Je dois respecter ton identité, ouais. Mais c'est juste qu'on est à deux doigts d'une guerre mondiale de tarés. Y'a l'écosystème qui va dans le mur. On va crever comme des connards. Alors ton petit problème de coiffure, on verra peut-être ça plus tard. En attendant, choisis ton sexe. Oh oh oh. Fais-t'en opérer si tu veux, mais arrête d'avoir les deux. Choisis ton sexe. Oh oh oh. C'est comme la Russie et l'OTAN. Femme, choisis ton camp, choisis ton sexe. Oh oh oh. Tu sais, moi aussi, j'ai mon côté féminin. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Quand j'oublie mon clignotant ou bien que je gueule tout le temps pour rien. Allez, solo. Mais non, c'est encore en retard, putain. Allez, Rasta blanc, lève bien haut ces petits bras tout maigres. Jusqu'à maintenant c'était facile pour emmerder la société. Y'avait les punks ou bien les skins, même si c'était rarement des vrais. Même le voile islamique au lycée, ça faisait bien flipper les dirlo. Ben aujourd'hui pour se rebeller, on dirait que la mode c'est de faire travlo. Mais toi c'est encore pire, tu veux même pas faire travlo. Ni une femme, ni un homme, putain c'est quoi, un escargot? En attendant choisis ton sexe. Oh oh oh. Les femmes qui deviennent des... Pour gagner plus d'argent, choisis ton sexe. Oh oh oh. Un homme qui devient une femme, des fois c'est un peu marrant. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Tu sais, ma jambe croise plein des gonzesses comme toi, très masculine. Choisis ton sexe. Oh oh oh. Bah, moi j'ai rien à leur reprocher à part qu'elles sont rarement terribles.